Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Notre invitée du jour, Claire Farina, qui est psychiatre addictologue du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Trappes, le XAPA. Elle nous parlera du mois sans tabac qui a débuté début novembre. L'occasion également de parler des idées reçues, elles sont nombreuses, sur le tabac. Nous écouterons également un extrait du Club de la Presse réalisé avec TV78, le journal Toutes les Nouvelles, la radio LFM et Radio Sensation. Il y sera largement question du second confinement que nous vivons actuellement et de ses répercussions dans les Yvelines. La Minute Conso de Pierre Joannès est à 17h45. Pierre nous expliquera pourquoi le prix des imprimantes repart à la hausse avec le confinement. Allez, on commence cette émission en musique comme d'habitude et on revient juste après avec notre invité. Écoutez, Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, on accueille notre invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Claire Farina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Trappes, le XAPA, avec nous pour nous parler du mois sans tabac qui a débuté la semaine dernière. Est-ce que vous pourriez, pour commencer d'ailleurs, nous rappeler en quelques mots le principe de ce mois sans tabac ?
Oui, alors le mois sans tabac, c'est un challenge national pour inviter tous les fumeurs qui le souhaitent à relever ce beau défi qu'est l'arrêt du tabac.
Puis il y a quelque chose qui est mis en place également, parce que les fumeurs, les fumeuses sont accompagnées pour celles qui veulent arrêter, en tout cas celles et ceux qui veulent arrêter avec des kits, etc., etc.
Oui, tout à fait. Donc il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme du mois sans tabac, sur laquelle on peut se connecter, s'inscrire, qui va vous coacher, qui va vous donner des conseils régulièrement. Donc faut s'inscrire le plus nombreux possible, et chaque jour sans tabac est gagné. Donc même si on s'inscrit que pour quelques jours, déjà on a fait une première démarche dans cet arrêt du tabac. Et il y a effectivement aussi Tabac Info Service qui peut donner des conseils. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour accompagner dans l'arrêt du tabac.
Alors ce mois sans tabac est aussi l'occasion pour nous de parler des idées reçues sur le tabac. Elles sont nombreuses. Je vais vous donner les principales, quelques-unes en tout cas que j'ai sélectionnées. Puis vous allez nous dire justement ce qu'il en est. Voilà, il y en a quelques-unes que je vous donne. Alors la première qu'on entend souvent, c'est le tabac fait maigrir. Ou en tout cas, il permet de ne pas prendre de poids. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Et surtout, est-ce que c'est un bon argument ?
Oui, alors ce qui est contenu dans la fumée du tabac a des capacités de coupe-faim. Donc ça, tous les fumeurs le savent. Quand on fume une cigarette, il y a un côté satiété qui fait qu'on a tendance à moins manger que quand on ne fume pas.
D'accord.
Alors ça peut permettre effectivement de diminuer le poids, mais c'est pas vrai chez tout le monde. Donc on voit bien que dans les études qui montrent l'évolution après l'arrêt du tabac, il y a des gens qui perdent du poids. Il y a environ 20% des personnes qui vont, quand ils arrêtent le tabac, perd du poids. Dans la moyenne, effectivement, les gens vont plutôt tendance à avoir tendance à prendre du poids. Et donc il faut effectivement surveiller son alimentation, réadapter son mode de vie en quelque sorte. Puisqu'on utilise certaines personnes et beaucoup de personnes utilisent le tabac justement pour cet effet coupe-faim. Donc si on enlève un outil de sa panoplie pour garder la ligne, il va falloir trouver d'autres choses. Donc marcher un peu plus, adapter son alimentation. Et il faut savoir qu'on ne va pas gagner un poids fou. On va retourner au poids qu'on aurait eu au même âge de sa vie si on n'avait jamais fumé.
Voilà, ça permet de répondre donc à une autre question que j'allais vous poser. C'est que est-ce qu'on prend systématiquement du poids en arrêtant de fumer ? Vous avez plus ou moins répondu pas forcément.
Non, pas forcément. Alors, il y a 20%, c'est un cinquième des personnes qui vont plutôt perdre du poids. Il y a des gens qui vont rester stables et il y a des gens qui vont gagner du poids. Ça c'est assez évident. La plupart des fumeurs le savent. Il y a un petit gain de poids, alors qui est très variable d'une personne à l'autre. On sait qu'en tout cas, le gain de poids va se faire sur les 3 premiers mois qu'ensuite ça se stabilise. Si ça continue au-delà du 3-4e mois, si on continue encore à prendre du poids, c'est que là, on va plutôt être aussi sur quelque chose où on utilisait la cigarette peut-être pour gérer un stress. Du coup, on va utiliser plutôt des bonbons ou d'autres choses pour gérer le stress.
Ouais.
Et donc
d'accord.
Là, le problème ne se situe pas forcément au niveau de la perte de poids, plutôt au niveau de la gestion du stress où il va falloir trouver d'autres dérivatifs. Et là, ça peut être intéressant de consulter pour avoir d'autres outils.
D'accord. Alors, autre chose que l'on entend souvent, faire du sport permet d'éliminer le tabac du corps, en quelques mots, de décrasser le corps et surtout les poumons.
Alors malheureusement, ça c'est complètement faux. C'est-à-dire que quand on va faire du sport, on va avoir un rythme respiratoire qui va s'augmenter, on va avoir des alvéoles pulmonaires qui vont s'ouvrir. Donc si on fume une cigarette après, on aura encore plus de goudron qui va passer.
Ah oui, donc c'est pire peut-être.
Ça peut être pire, effectivement, ça peut être pire.
Ouais. Peut être pire.
Donc si on fume avant le sport, on va avoir beaucoup de monoxyde de carbone, donc on va être beaucoup moins performant. Et donc le sport est un excellent outil pour beaucoup de choses, mais le tabac et le sport, ça fait pas très bon ménage. Et puis en plus, comme le tabac, ça a tendance à encrasser un peu les artères, il faut quand même faire un peu attention.
Allez, une autre des idées reçues, en tout cas qu'on entend souvent, c'est que le tabac à rouler est moins nocif que les cigarettes industrielles.
Non, le seul bénéfice du tabac roulé, c'est qu'il est moins cher. Mais il est, mais sinon, il est tout à fait aussi toxique que les cigarettes industrielles. Ça, il y a aucune différence.
Bon, on va continuer justement en parlant de différents types de cigarettes. Les cigarettes légères, qu'on appelle légères ou au menthol, seraient moins dangereuses que les cigarettes classiques.
Alors non, pas du tout. Elles sont pas moins dangereuses, elles ont un côté plus séduisant, elles vont bientôt être arrêtées, les cigarettes au menthol. Les cigarettes légères ne sont pas en fait moins nocives. Et souvent, celles qu'on appelle un peu légères, elles ont une teneur moindre en nicotine. Mais du coup, comme chaque fumeur a sa dose de nicotine à laquelle il est bien, il peut avoir tendance à en fumer plus. Donc oui. Paradoxalement, ça va pas être terrible non plus. Et donc. La cigarette légère ne contient pas moins de monoxyde de carbone, qui est le gaz qui est dégagé quand la cigarette se consomme. Et c'est ce gaz-là qui va prendre la place de l'oxygène au niveau des poumons et au niveau des globules rouges, et qui va faire que c'est un peu comme si on respirait derrière un pot d'échappement, quoi. Donc, qu'elles soient mentholées ou pas, elles font la même chose.
D'ailleurs, ça me fait penser à une... J'avais pas prévu de vous poser cette question, mais je la pose quand même, parce que c'est un phénomène qui est assez développé, notamment chez les jeunes, c'est la chicha, ou en bon français, le narguilé. Voilà, est-ce que qu'on dit beaucoup moins nocif que les cigarettes?
Alors, c'est vraiment une idée reçue, parce qu'en fait, la chicha est beaucoup plus toxique en termes de monoxyde de carbone. Elle peut même être relativement dangereuse, parce qu'elle sécrète plus de ce fameux de cette fameuse molécule qu'est le monoxyde de carbone. D'accord. Et donc, on peut vraiment s'intoxiquer. C'est le même principe que les chauffages qui fonctionnent mal. Ça peut vraiment être dangereux, le narguilé. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus toxique que la cigarette.
Et puis sans oublier qu'on fume très longtemps le narguilé, hein, en général avec les jeunes, ça va être 1 heure, 1h30, 2 heures, voilà, sans s'arrêter.
Exactement, oui.
Alors, une autre idée reçue, je fume depuis trop longtemps, ça ne sert à rien d'arrêter, le mal est fait.
Alors, il y a des choses qui sont liées à la consommation de cigarettes qui sont effectivement pas réversibles. Par exemple, si on a une atteinte pulmonaire, on sait que cette atteinte pulmonaire, si on est au stade où on a ce qu'on appelle un emphysème, donc une partie des poumons qui est détruite, effectivement, le mal est fait sur cette partie-là. Par contre, l'arrêt du tabac peut permettre que ça n'évolue pas, que ça n'aille pas au-delà, et donc du coup, ça fait gagner en qualité et en espérance de vie. Donc ça, c'est pour le côté purement pulmonaire. Pour tout le reste, il y a d'énormes bénéfices à arrêter de fumer, même si ça fait très longtemps qu'on fume. On sait, quelqu'un qui arrête à 30 ans récupère au bout de quelques années la même espérance de vie que quelqu'un qui n'a jamais fumé.
D'accord.
Après, ça diminue un petit peu, forcément au vu de l'exposition, puisqu'on a accumulé des éléments cancérigènes, etc. Mais on sait aussi que même si on a un cancer qui est traité par chimiothérapie, eh ben, il y a un bénéfice net sur la survie et la qualité de vie à arrêter de fumer. Donc même quand on est malade et qu'on n'est vraiment pas bien, il y a un bénéfice à l'arrêt du tabac. Donc il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer.
L'arrêt du tabac est uniquement une question de volonté. Ça aussi, c'est ce qu'on entend. Hein.
Alors ce serait bien, mais du coup, il y aurait beaucoup moins de fumeurs si c'était le cas. Non, la volonté, c'est ce qui va nous permettre d'arrêter de fumer. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour arrêter de fumer. Mais la volonté, c'est pas le problème. Et on peut avoir plein de choses autour de nous qui ont besoin de notre énergie, et ça peut effectivement pas être le bon moment, disons, pour arrêter de fumer. Alors après, il faut pas attendre le bon moment pendant des années. Il faut aussi prendre les choses à bras-le-corps quand c'est nécessaire. La volonté, on va l'utiliser, mais il y a aussi beaucoup d'outils, les substituts nicotiniques, se faire soutenir par un professionnel. Et moi, je vois tous les jours ici des gens qui ont énormément de volonté, qui ont des projets, qui ont fait énormément de choses et qui viennent ici pour une aide pour l'arrêt du tabac. Et puis, je suis sûre que vous connaissez les auditeurs et vous connaissez comme moi des gens qui ont une volonté râlée pâquerette, mais qui n'auront pas de problème pour arrêter de fumer. Donc, c'est pas un problème, c'est pas qu'une question de volonté. La volonté est nécessaire pour arrêter de fumer. Après, il y a la détermination, il y a le moment, il y a l'énergie qu'on a y consacrée, il y a beaucoup d'autres choses.
Fumer occasionnellement sans être dépendant n'est pas dangereux.
Alors, pour la plupart des gens, oui, heureusement. Mais on sait que dans la fumée du tabac, il y a des éléments qui sont ce qu'on appelle vasoconstricteurs, c'est-à-dire qui vont serrer les artères. Ouais. Et on peut, et dans certains cas, rares, mais qui existent quand même, hein, qu'on a vu survenir, on peut faire un infarctus parce que le tabac étant vasoconstricteur, il serre les artères. Mmh. Et s'il serre celle du cœur, ça ne se passe pas bien. D'accord. Donc même de manière occasionnelle, ça peut, heureusement c'est rare, mais ça peut être dangereux. Oui. Mmh.
Les filtres de cigarettes éliminent la plupart des saletés de la cigarette.
Alors malheureusement, ça élimine rien du tout. Ça se jaunit parce que ça élimine un tout petit peu. Ça enlève pas le monoxyde de carbone, ça enlève pas les agents cancérigènes. C'est plutôt une vue de l'esprit et c'est les cigarettiers qui ont mis ça pour rassurer les consommateurs, mais ça n'enlève pas grand chose en fait.
Alors on entend également dire que le cancer arrive avec l'âge. Le cancer des poumons, je m'entends, hein, peut-être d'autres également qui sont liés, mais qui sont moins connus par rapport au tabac, et que ce cancer arrive surtout chez les hommes.
Alors, le cancer arrive effectivement avec l'âge, parce qu'il se cumule avec d'autres choses, mais ça, on voit ça aussi chez des hommes et des femmes relativement jeunes. Il y a le cancer du poumon, et comme vous le disiez très justement, il y en a d'autres, le cancer de la vessie, du côlon et autre joyeuseté. Ouais. Mmh. Et ça, on le voyait beaucoup chez les hommes pendant un temps, parce que culturellement, pendant longtemps, c'était les hommes qui fumaient. Ouais. Donc on le voyait moins chez les femmes. Mais là, les courbes commencent à se rejoindre et on voit de plus en plus de cancers du poumon chez la femme. Donc malheureusement, c'est un des seuls endroits où il y a une égalité homme-femme et qui est en train de s'effacer. Et le cancer arrive, certes, plus fréquemment avec l'âge, chez les hommes comme chez les femmes.
Mmh. Allez, une dernière petite idée reçue, peut-être pour terminer ce petit tour d'horizon. Enceinte, on entend dire qu'enceinte, fumer quelques cigarettes, ce n'est pas très grave.
Alors ça, c'est aussi faux. Quand on est enceinte, en fait, même si on fume un tout petit peu, mon fameux monoxyde de carbone va passer à l'intérieur du corps et va aller se fixer dans le sang du bébé qui a une hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est la protéine qui va transporter l'oxygène, mmh. qui est beaucoup plus sensible que celle de la maman. Ouais. Donc là où la maman va être un tout petit peu, va avoir un petit peu de monoxyde de carbone et respirer un petit peu moins bien, et son sang sera moins bien oxygéné, le bébé, lui, il va voir les choses de manière beaucoup plus importante. Donc même une cigarette un peu occasionnelle, ça peut être une cause de souffrance fœtale importante.
Alors, docteur Farinet, la dernière fois que je vous ai interviewé, c'était déjà le confinement. il est de retour avec les difficultés peut-être hein, pour arrêter de fumer. Alors, est-ce que le confinement, ça peut être une bonne occasion pour certains, d'arrêter cette addiction qui est le tabac, peut-être les autres également? Ou est-ce que ça ne rajoute pas au contraire une contrainte supplémentaire d'être stressé, angoissé? En gros, est-ce que c'est une bonne occasion pour arrêter? Et si oui, comment s'y prendre?
Alors, il y a des gens pour lesquels ça va être une excellente occasion de changement des habitudes, de je jette mon paquet à la poubelle, je fais autrement, de je suis confinée chez moi et je veux pas fumer chez moi, donc ça peut être une aide. Il y a pour d'autres personnes, ça va pas être le bon moment du tout, justement comme vous le disiez, si c'est une période de stress où on a plein de choses à gérer, plein d'angoisses et autres, il faut pas que se dire ah c'était le moment ou jamais, je l'ai loupé, et se décourager en fait. Donc le bon moment pour arrêter de fumer, il est très différent pour chaque fumeur. Il faut se connaître et se dire ça peut être l'occasion d'essayer. Si je vois que ça fonctionne, c'est que c'était bien et que c'était un bon timing pour moi. Si je vois que ça fonctionne pas, peut-être que ça peut que le déconfinement justement, qui va bien finir par survenir, pourra être une meilleure occasion pour arrêter de fumer. Et l'autre partie de votre question, c'était comment s'y prendre.
Comment s'y prendre, tout à fait.
Ouais, donc il y a deux manières principales d'arrêter de fumer. Il y a des gens qui préfèrent commencer par diminuer. Donc la technique de diminution la plus classique, c'est d'enlever les cigarettes qui sont les moins utiles. Donc faut pas commencer par celle qui paraît insurmontable à enlever. Vaut mmh. mieux commencer par celles qui sont dans la journée où on se dit tiens là j'ai un petit peu fumé par habitude, mais pas forcément par nécessité ou par besoin de nicotine. Donc celles-là on les enlève. On peut éventuellement dans ces moments-là prendre des petits substituts nicotiniques, donc des pastilles, des chewing-gums. Donc attention à l'utilisation des chewing-gums. si ça s'utilise de manière un peu particulière, il faut bien lire la notice. Il y a des inhaleurs, il y a des sprays aussi qui existent. Donc, remplacer une cigarette par une petite dose de nicotine qui vient d'un médicament et qui peut permettre de diminuer progressivement. Donc la première voie, c'est la diminution progressive, où on va au rythme qu'on souhaite et où on diminue progressivement. Il vaut mieux donc prendre des substituts nicotiniques, parce que le risque de cette technique-là, c'est de tirer plus fort sur ces cigarettes, celles qui restent, et au final de se prendre autant de goudron que si on n'avait pas diminué. Donc les substituts nicotiniques ont vraiment tout leur intérêt ici. Et l'autre technique, c'est d'arrêter du jour au lendemain, donc en se fixant une date ou en se disant, tiens, aujourd'hui j'en ai marre, je jette mon paquet. Ça, chacun voit comme il le souhaite. Et là, pour le coup, les substituts nicotiniques peuvent aussi être d'une aide importante. Mmh. Et surtout, une des clés, c'est de se dire, j'arrête parce que ça me fait plaisir d'arrêter. Si on le voit comme une punition, c'est beaucoup moins facile. Donc essayer de renverser la vapeur et de se dire, j'arrête, je suis fière d'arrêter, je vais y arriver, c'est pas facile, ça me demande des efforts. Je le vois comme une libération et je vois ce que ça va m'apporter en termes de santé, en termes financiers. Vraiment le voir comme quelque chose de positif et de positif pour soi.
Mmh. Ça me permet de vous reposer une autre question, parce qu'effectivement, par rapport à pourquoi aussi les gens fument, peut-être une autre idée reçue qu'on pourrait ajouter, c'est est-ce que le tabac, en fait, le fait de fumer, enlève vraiment le stress? Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement également. Voilà, je fume parce que je suis stressé, donc ça me permet de déstresser.
Alors ça, c'est effectivement une autre idée reçue et qui est renforcée par un des éléments de réalité. C'est-à-dire qu'un fumeur qui fume régulièrement tous les jours va avoir besoin d'un dosage de nicotine, donc d'un certain nombre de cigarettes pour être bien. Mmh. Dès qu'il va passer en dessous du seuil où il est bien, donc en gros s'il laisse passer ses cigarettes ou qu'il diminue ou qu'il arrête, il va se sentir stressé, il va avoir des éléments de sevrage en nicotine qui sont... Mmh. Stressant, on ne se sent pas bien, et une cigarette va lui permettre de repasser au-dessus et du coup d'être bien. Donc d'accord. Il va vivre la cigarette comme quelque chose de déstressant et c'est une réalité, c'est-à-dire que ça va lui enlever son sevrage et donc du coup il va se sentir mieux. Mm-hmm. Mais un non-fumeur qui prendrait une cigarette, ça ne va pas du tout le déstresser, ça va le faire tousser, il aura mal à la tête, ce ne sera pas du tout quelque chose de fonctionnel pour lui. Mm-hmm. Et on voit dans certaines études que si on calcule le niveau de stress de gens qui fument, avant le sevrage, pendant le sevrage et à distance du sevrage, on va dire à un mois à peu près, mmh. ils sont un peu stressés avant le sevrage. Mmh. Pendant le sevrage, ils sont très stressés. Et quand à distance du sevrage, ils ont un niveau de stress qui est moins élevé que ceux qui n'ont pas arrêté de fumer.
D'accord.
Donc en fait, les gens qui ne fument pas sont moins stressés que les gens qui fument.
Bon, ça, ce sera la conclusion. Et pour celles et ceux qui voudraient arrêter, d'ailleurs, au-delà de ce mois sans tabac, peut-être, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, est-ce qu'il y a des sites internet, voilà, ou est-ce si on veut consulter également, parce qu'on a besoin d'un accompagnement, voilà, est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites informations pratiques?
Oui, alors il y a le côté contact téléphonique. Alors ici en France, le plus classique, c'est le 3989. Mmh. Donc c'est une ligne téléphonique, la ligne de tabac infoservice qui vous met en relation directement avec des professionnels. D'accord. Donc vous aurez un tabacologue en ligne qui va pouvoir vous donner des conseils, des astuces et éventuellement vous orienter vers une consultation dans les parages de l'endroit où vous habitez. Donc ça, c'est le plus simple. Vous avez juste le numéro à composer et vous serez mis en ligne directement avec un tabacologue. Alors des fois, on n'a pas forcément envie de passer par de raconter sa vie au téléphone, on a envie d'un truc un peu différent. Là, pour ça, il y a les applications. Donc il y en a beaucoup, des applications. Il y a Stop Tabac, qui est une application suisse qui est très bien. Il y en a d'autres qui sont payantes. Et c'est des petites applications pour ceux qui ont un smartphone qu'on peut utiliser et qui va vous coacher, qui va vous dire, vous avez arrêté à telle date ou vous avez diminué à telle date, vous avez gagné tant de sous, c'est bien, votre corps vous dit merci, et qui va vous mobiliser un petit peu au fur et à mesure et vous encourager.
D'accord.
Après, il y en a qui sont un peu des applications un peu mignonnes comme Smoky Tun où vous êtes un petit chat qui arrête de fumer et qui va reconstruire. C'est un jeu en fait sur téléphone, cette application là elle est payante. Donc il y a beaucoup de modalités ou de supports pour qui peuvent un peu coacher pour arrêter de fumer, donc, dont certains sont assez sympathiques.
D'accord. Et puis pour consulter, du coup, ça...
Alors, pour consulter, des consultations... Oui, alors les consultations, il y en a un peu partout. Le premier relais assez facile à trouver, c'est votre médecin généraliste.
D'accord.
Alors, on est un peu en pénurie dans les pages, mais il y en a quand même encore quelques-uns. Et du coup, le médecin généraliste peut vous prescrire des pages, des pastilles et faire le point avec vous sur votre consommation de tabac. Mmh. Il faut savoir que les infirmiers et les sages-femmes et d'autres professions de santé peuvent aussi prescrire des pages et des pastilles qui vous seront remboursées. Donc, je le rappelle, pour ceux qui seraient passés pour l'instant à côté de cette information, mais toutes les pastilles, les patchs, tout est remboursé.
Ah, c'est important de le dire, oui.
Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où vous avez une ordonnance, le pharmacien vous délivre gratuitement tous les substituts nicotiniques.
D'accord.
Donc, le premier relais, c'est le médecin généraliste. Si vous voulez l'adresse le plus proche de chez vous, le plus simple, c'est d'appeler le 3989, donc Tabac Info Service. Et si vous souhaitez vraiment un accompagnement plus large, vous pouvez consulter dans une consultation de tabacologie, dans un centre comme le nôtre, par exemple le XAPA du centre hospitalier de Migno, donc c'est l'hôpital de Versailles, qui a trois antennes, Rambouillet, Trappes et Versailles. Et sur les trois antennes, vous trouverez une consultation de tabacologie qui pourra vous recevoir gratuitement.
Merci beaucoup, docteur Claire Farina. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie des Trappes. Donc, merci pour ces précieux conseils. Et puis, en espérant que le confinement se terminera rapidement quand même.
Oui, avec plaisir. Et j'espère bien qu'on va bientôt être libéré et que ce sera aussi l'occasion de se libérer du tabac.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Bonne soirée à vous, au revoir. Merci.
Il est 17h26, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, on marque une seconde pause musicale dans votre émission du mercredi et on revient juste après avec un petit extrait du Club de la Presse. On va parler confinement. Eh oui, encore le confinement. Allez, musique.
Kana kuda ulara ne banke isa sola kabini shakuma kara re
17h passées de 30 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, on va maintenant écouter un petit extrait du Club de la Presse qui est organisé une fois par mois avec TV78, la radio LFM, Radio Sensation et le journal Toutes les Nouvelles. Voilà l'occasion de balayer un petit peu l'actualité d'un point de vue journalistique, des journalistes en tout cas yvelinois. Et Marmite FM, bien sûr, participe à cette émission. Voilà, je vous propose d'écouter un extrait, notamment autour du confinement et des répercussions qu'il a dans les Yvelines. C'est parti.
À la fin du confinement reste fixé au 1er décembre. Déclaration de Jean Castex peu de temps après l'allocution du président Macron. Et c'est bien la seule chose plutôt claire en ce moment. Les dérogations, voire même les entorses au confinement sont nombreuses. Pour débuter, j'aimerais un peu avoir le sentiment de chacun sur votre perception un petit peu sur ce confinement. Est-ce que vous avez le sentiment d'une certaine résignation, au contraire d'une contestation de la population aussi peut-être? Comment vous le vivez aussi ce confinement, Nicolas Kirilovitz?
Je pense que c'est les deux. Alors c'est un peu une réponse de Normand, mais il y a une résignation du fait des chiffres sanitaires qui sont difficiles à contester, et puis quand même ce mécontentement sur cette cacophonie au sein du gouvernement, mais aussi ce côté peut-être un peu français qui marche aussi dans les Yvelines où on demande à être protégé et en même temps on a du mal à accepter les mesures qui impliquent cette protection. Donc j'ai envie de dire les deux sentiments, même dans les Yvelines, qui n'est pas à part dans la France.
Et Akima, justement du côté du nord du département, comment est vécu un peu ce confinement en ce moment?
Mais écoutez, nous, on a réalisé un micro-trottoir, hein, comme on le fait régulièrement dans notre programme info, la pause actu, pour justement sonder la population face à ce reconfinement. Et ce qui ressort globalement, c'est quelque chose de très... C'est du en même temps, comme on dirait. Il y a du soulagement. Et puis en même temps, une perplexité, il faut le dire, sur l'efficacité de cette formule, parce qu'il y a quand même une différence entre le premier confinement, celui qu'on a vécu au mois de mars, et c'est ce qui ressort des différents témoignages. Et puis également, ce qui ressort, c'est que la perception est très différente en fonction de si on est retraité, bien entendu, si on est étudiant, si on est actif, puisque ce qu'on voit clairement dans les rues, c'est que les artères sont encore pleines, les axes routiers sont encore pleins. On n'a pas le sentiment, on n'a pas la perception d'un confinement.
On va peut-être écouter le micro-trottoir que vous avez réalisé justement pour LFM. On écoute ce son qui nous a été envoyé par LFM.
Eh bien, bien et mal, parce qu'on est rassuré d'une certaine façon parce qu'il a été remis en place.
C'est pas facile à vivre. On va juste essayer de vivre avec eux, mais c'est pas facile franchement à parler.
C'est difficile pour nous en tant que retraités. On n'a plus de loisirs, on n'a plus le droit de faire de sport, on n'a plus le droit d'aller à la piscine, on n'a plus le droit de rien faire. Sortir une heure, c'est quoi dans une journée?
Non, justement, je trouve qu'il est moins dur. Moi, par rapport à mes enfants, en fait, qui sont scolarisés, c'était assez difficile par rapport à mon fils qui était en CE1, en fait, pendant le premier confinement.
Est-ce qu'il est aujourd'hui suffisant? On se pose encore des questions, parce que vu le monde qu'il y a dans la journée qui se promène, est-il aujourd'hui suffisant? Voilà, c'est la grande question.
Voilà pour ces quelques réactions dans le nord du département. Si on revient sur le sud un petit peu, sur Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, Alexandre Marquet pour les nouvelles et cette 8 actu. Vous sur le terrain, vous avez quels échos un peu? On parlait aussi de ces retraités. Est-ce que ce sont eux qui se sentent peut-être un peu plus punis aussi que les autres? Parce que eux restent vraiment à domicile puisqu'ils ne travaillent pas.
Oui, c'est peut-être les seuls finalement qui sortent pas, parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression d'être confiné. Ça ressemble plus à un couvre-feu finalement qu'un confinement, avec encore des bouchons, la circulation, l'activité économique qui continue, les écoles qui continuent. Et finalement, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour l'instant, qu'il y a un mécontentement, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas que des commerces dits essentiels restent ouverts, alors que d'autres, qu'elles soient fermées. Et je pense que c'est ça qui crée cette incompréhension, ce sentiment d'injustice chez certains.
Nicolas Dandry, pour TV78.
Il y a aussi une incompréhension du fait que le gouvernement, le président Macron a annoncé le confinement, et puis le gouvernement a annoncé le plan, mais un plan en quelque sorte incomplet, parce qu'il y avait encore des débats ce week-end, on se rappelle, autour des librairies, notamment les grandes enseignes qui avaient le droit encore de vendre les livres, notamment les enseignes spécialisées dans le secteur culturel, alors que les petites librairies et les petits commerçants, les libraires notamment présents sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont dû s'adapter. On prend par exemple la librairie du pavé du canal qui s'est adaptée, qui fait du click and collect, c'est-à-dire que les clients commandent leurs livres en ligne et viennent le chercher dans le magasin. Alors voilà, après il y a deux cas de figure. Il y a des commerçants qui sont en colère parce que leurs commerces sont obligatoirement fermés administrativement, mais certains s'adaptent quand même.
Et au-delà de ça, il y a une certaine incompréhension qui est aussi alimentée par les élus, par les maires. Alors là, on va faire peut-être un petit tour de table aussi pour voir un peu comment les élus sur vos différents secteurs dans le département ont réagi. Mais il y a des arrêtés qui ont été pris, des arrêtés qui sont au final illégaux puisqu'ils seront cassés après par les préfets. Mais en attendant, certains petits commerces sont restés ouverts. Nouradine, par exemple, peut-être sur Trappes, comment s'est positionné le maire de Trappes sur ces questions-là? Est-ce qu'il a pris un arrêté, par exemple, pour ouvrir ses petits commerces? Est-ce qu'il s'est rangé derrière ce qui a été énoncé par le gouvernement?
Non, il s'est rangé derrière ce qui avait été annoncé. Et ce qu'il a mis en avant, c'était surtout l'impréparation, je cite, l'impréparation du gouvernement, notamment concernant les masques dans les écoles pour les petits, à partir de 6 ans. Voilà, c'est surtout ce qui a été mis en avant. Et du coup, la mairie de Trappes a acheté et commandé des petits masques adaptés aux petits dans les écoles primaires notamment, et on a fait la distribution. Donc voilà, c'est surtout ça qui a été mis en avant. Et puis après, le travail de solidarité également qui est très important en cette période. Mais il n'y a pas eu de décision spécifique concernant les commerces.
Je sais qu'il a signé la tribune de l'Association des maires d'Île-de-France. En estimant qu'il fallait des règles claires et justes et que de nombreux commerces de proximité ne pourraient pas survivre à un second reconfinement.
Il y a eu des élus, Alexandre, dans le département aussi, qui eux ont pris des arrêtés?
Oui, il y a eu le maire de Limay, le maire de Maison-la-Ville aussi, Jacques Miard. Mais comme vous le disiez, Wilfried, tout ça risque d'être retoqué, parce que c'est des arrêtés qui sont jugés illégaux et qui risquent d'être retoqués par le tribunal administratif de Versailles.
Alors qu'il n'a toujours pas été, puisque ça fait,
pardon,
ça fait une semaine, par exemple, pour l'arrêté à Limay qui a été présenté par la mairie. Une semaine plus tard, les commerces, visiblement, puisque hier j'étais en contact avec la mairie, sont toujours ouverts et l'arrêté n'a toujours pas été retoqué. Donc, si c'est pour qu'il soit retoqué dans une semaine et qu'Emmanuel Macron annonce au bout de 15 jours, comme il l'a dit, que les commerces pourront rouvrir, ça sera une opération réussie, par exemple, pour le maire de Limay.
À moins que ce soit un confinement plus dur qui soit annoncé aussi dans une semaine.
Mmh. À moins que ce soit non plus.
Nicolas ?
Justement, au niveau des recours auprès du tribunal administratif, mais aussi auprès du Conseil d'État, il y a de nombreux recours qui sont effectués. Hein, et notamment, nous, on a reçu sur notre plateau Monseigneur Bruno Valentin, l'évêque auxiliaire de Versailles, qui fait partie de ces évêques, donc de la Conférence des évêques de France, qui ont fait un recours référé liberté auprès du Conseil d'État pour permettre l'organisation des messes du dimanche. Donc il y a aussi les commerçants, il y a les maires, mais il y a aussi le milieu religieux, et notamment le milieu catholique et chrétien, qui déposent des recours pour permettre l'organisation des messes du dimanche. Alors que lors du premier confinement, on l'avait vu, certaines messes étaient retransmises par visioconférence, seulement les personnes d'église étaient présentes dans l'église et les fidèles pouvaient suivre la célébration par ordinateur.
Nous allons continuer ce club de la presse du mois de novembre et nous allons continuer à échanger avec les journalistes des différents médias du département autour pour l'instant de cette question du confinement. Confinement sur fond forcément de crise sanitaire. On pourrait quand même faire une petite parenthèse pour parler du personnel soignant. Akima, je me tourne vers vous puisque vous avez rencontré du personnel soignant pour évoquer un petit peu la situation actuelle.
Oui, tout à fait. L'équipe de Melan, les Mureaux, qui a souhaité nous alerter effectivement sur la situation de grosse crise qu'il vivait, avec une saturation. Bon, alors ça rejoint ce qu'on entend déjà au niveau national, avec l'annonce cette semaine de plus de 85% des lits de réanimation qui seraient occupés. Alors, au niveau local, en tout cas en ce qui concerne l'hôpital de Melan, les Mureaux, c'est ce que notre journaliste reporter effectivement a constaté, avec des lits dans les couloirs, avec finalement des patients relativement jeunes, entre 35 et 40 ans. Donc une deuxième vague effectivement qui est plus dure. Et justement, on a l'extrait d'un reportage pour entendre les réactions du personnel soignant qui est véritablement à bout.
On est, comme vous pouvez le voir, on est débordé.
Aujourd'hui, on a une collègue quand même qui est venue travailler ce soir parce qu'elle n'avait pas le choix, on ne lui a pas laissé le choix alors qu'elle est positive. Actuellement, je suis en poste, mais je suis en congé. Donc, je suis revenue hier, aujourd'hui, je reviens dimanche soir, mercredi prochain. Enfin voilà, on compte plus les heures dans lesquelles on revient.
On n'a même pas de thermomètre, nos tensiomètres ne marchent pas. On est fatigué, on n'est pas aidé. Et là, on doit encore survivre à une deuxième vague de Covid.
À la télé, on entend que tout va bien, qu'ils essayent de faire leur maximum, qu'ils ont appris de la première vague. Tout. Mais nous, on est toujours en souffrance au sein de l'hôpital, quoi.
Je trouve que cette deuxième vague est beaucoup plus intense et beaucoup plus compliquée à gérer que la première.
On doit donner de notre personne, de notre temps, de notre force.
À un moment donné, il faut arrêter. Faut mettre les moyens, parce que la santé n'a pas de prix, ni la nôtre, ni celle des patients.
On voit la situation dans les hôpitaux et cette saturation sur les différents lits. Dans le reste du département, Alexandre, peut-être ?
Non, moi, je n'ai pas trop d'écho. Je sais...
Je profite juste pour rebondir, parce que vous dites que vous n'avez pas trop d'écho. Et effectivement, quelquefois, c'est difficile d'avoir les chiffres des hôpitaux. C'est-à-dire que l'ARS communique, l'Agence régionale de santé, mais quand on contacte les hôpitaux pour avoir les chiffres très précis, c'est un peu plus compliqué. On a plus de mal à les avoir.
Oui, Mignot et Poissy, c'est compliqué. Je sais que mon collègue de Rambouillet a plus de facilité, mais en passant par les syndicats. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un vrai problème pour les journalistes locaux de pouvoir communiquer là-dessus. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait un mouvement hier, visiblement, à Rambouillet. Enfin, j'ai vu ça dans la presse, et notamment sur 7-8 Actu. Il y avait visiblement un mouvement à Rambouillet pour manifester contre le manque de moyens devant l'hôpital.
Donc on voit que ça monte. C'est la suite du Ségur de la santé aussi concernant Rambouillet, où les syndicats demandaient des différentes primes qui n'avaient pas été aussi versées, mais qui alertaient sur cette saturation. Même si, une fois de plus, nous, journalistes locaux, vous le voyez, on a quelquefois du mal à avoir les chiffres très précis d'occupation des lits, même si l'Agence régionale de santé le confirme, il y a une saturation. Alors, pour continuer à discuter autour de cette crise sanitaire, on peut aussi parler des enseignants, parce que la rentrée était très particulière pour tous les élèves, et les syndicats enseignants, en tout cas certains, ont appelé aussi à tout simplement fermer les écoles si les protocoles sanitaires n'étaient pas renforcés. Alternance de classe, pour faire simple, diviser les groupes, avoir moins de monde dans les écoles. Y a eu quelques mouvements aussi, et du côté de Mantes aussi, il y a eu quelques professeurs qui encore aujourd'hui sont en grève.
Absolument, et puis surtout des manifestations on va dire des mini-émeutes. Il y a des voitures qui ont brûlé sur différents sites à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. Donc on a commencé à avoir effectivement une agitation. Cette semaine, on a eu le sentiment que c'était un petit peu la semaine test. Et au final, le test n'a pas été concluant, hein, visiblement. Et même si on n'a pas eu directement les syndicats, on a eu quelques difficultés à rentrer en contact avec les enseignants du second degré, avec les enseignants du premier degré, beaucoup moins. Globalement, ce qui ressort, nous, sur notre secteur dans le Mantois, c'est qu'au niveau du premier degré, les enseignants, même si la situation est stressante, ils sont quand même favorables au maintien de l'école. Avec les masques, sous condition de respect des conditions sanitaires. Par contre, en ce qui concerne les collèges et les lycées, c'est là que clairement c'est ingérable. Et effectivement, La proposition de faire cours à distance avec une journée sur deux semble celle qui sera maintenue.
Comment s'est passée la rentrée sur vos différents secteurs, Moradine, pour Marmite?
Oh, la rentrée c'est plutôt bien passé. Hein. Alors pour rejoindre un petit peu aussi ce que disait Akima, c'est vrai que au niveau de l'école primaire, voilà, on a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup de témoignages également à ce niveau-là, en disant que c'était compliqué de faire respecter des règles sanitaires pour des enfants, notamment 6-7 ans avec les masques. Vous doutez bien que... D'ailleurs, c'est l'argument qui avait été utilisé initialement hein, lors de la première vague. On disait que c'était pas nécessaire de mettre des... non pas que ce soit pas efficace, mais que c'était pas nécessaire de mettre à des enfants de 6 ou 7 ans parce que justement, ils étaient trop petits et qu'ils n'arrêtaient pas de toucher les masques, de les bouger, de les mettre dans leur poche, etc. Et que du coup, c'était ça rendait cela inefficace. C'est exactement ce qui s'est passé en élémentaire notamment. On a beaucoup d'enseignants qui nous ont dit que c'était très compliqué de faire respecter cette consigne notamment. Et puis au niveau des collèges et des lycées, bah, le problème qui se pose, c'est que quand vous avez 35 ou 40 élèves dans une classe, bah, c'est très compliqué de pouvoir respecter des distances de sécurité, de pouvoir éviter les brassages et puis de pouvoir aussi, il commence à faire froid régulièrement, aérer les salles, quoi. Donc c'est ce qui est ressorti en tout cas pour cette rentrée, même si globalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait d'ailleurs un appel à mobilisation. Il y en aura un, je crois que c'est le 10, si je dis pas de bêtises, une mobilisation nationale. Donc voilà, affaire à suivre.
On va écouter un représentant du syndicat SNES-FSU. C'était sur notre antenne il y a quelques jours.
D'une part, on a eu connaissance du protocole uniquement jeudi soir, donc c'est extrêmement tardif pendant une période de vacances pour le mettre en place. D'autre part, ce protocole n'est que prétendument renforcé, puisque en fait, il est indiqué à de nombreux endroits que les mesures sont préconisées, et puis si ce n'est pas possible, eh bien, on continue comme avant. Donc pas parler de protocole remboursé. Et enfin, un certain nombre des mesures qui sont préconisées sont complètement inapplicables. Mmh. C'est-à-dire que par exemple, pour les mesures de distanciation physique, si on ne diminue pas le nombre d'élèves présents dans l'établissement, elles sont en fait complètement impossibles à mettre en place, puisqu'on ne peut pas simplement pousser les murs pour agrandir les locaux. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est rester ouvert le plus longtemps possible. Et ce que l'on craint, c'est que si des mesures adaptées, appropriées, qui sécurisent tous les élèves et tous les personnels, maintenant, si ces mesures ne sont pas prises, effectivement, nous allons arriver à une fermeture totale des établissements très rapidement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un protocole beaucoup plus strict et beaucoup plus sécurisant.
Voilà donc pour cet extrait du Club de la Presse que vous pouvez retrouver en intégralité à l'adresse suivante www.tv78.com www.tv78.com. Allez, on termine cette émission avec la Minute Conso de Pierre Joinet.
La Minute Consommateur avec Pierre Joinet.
Le deuxième confinement vient à peine de débuter que déjà le prix des imprimantes jets d'encre repartent à la hausse. L'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir a en effet relevé entre la fin du mois d'octobre et les tout premiers jours de novembre le prix de ces appareils très utiles dans le cadre du télétravail et pour éditer les attestations avait augmenté de 14%. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du prix de certains modèles, mais aussi par la suppression d'un bon nombre de références d'entrée de gamme. Pour le consommateur, le résultat est le même. Pour acheter une imprimante, il doit dépenser plus d'argent qu'avant. Cette hausse n'est pas la première. Lors du premier confinement, les prix des imprimantes avaient déjà connu une flambée. Plus 13% sur les deux dernières semaines du mois de mars et plus 23% sur la totalité de la période du 17 mars au 11 mai. À l'époque, c'était du jamais vu sur ce type d'appareil dont les variations de prix sont d'ordinaire très raisonnables. Qui plus est, une fois le confinement terminé, les prix n'ont pas retrouvé leur niveau initial. Au contraire, ils ont eu tendance à continuer à augmenter. Résultat, entre le mois de mars et aujourd'hui, le prix moyen des imprimantes a augmenté de plus de 30%. Et alors que lors du premier confinement, les marketplaces étaient quasiment les seuls responsables de la hausse des prix, cette fois tous les marchands s'inscrivent dans cette tendance. Le plus étonnant, c'est que les autres produits, eux, ne connaissent pas le même sort. Le prix des téléviseurs, par exemple, ne bouge pas particulièrement. Cette manière de faire a beau être moralement condamnable, elle est légale, les marchands étant libres de vendre les produits au prix qu'ils souhaitent. Pour acheter au meilleur prix, les consommateurs doivent plus que jamais comparer les offres. Les abonnés au site quechoisir.org ont, eux, tout intérêt à jeter un œil aux comparatifs d'imprimantes, jets d'encre et laser. Non seulement ils trouveront le test de plus de 200 modèles, mais en plus, pour la plupart d'entre eux, ils pourront comparer leur prix de vente sur les principaux sites marchands et même voir l'évolution dans le temps de ces prix. Autant d'outils précieux pour faire le bon choix en cette période de valse des étiquettes.
Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et oui, Marmite fait son actu, c'est déjà terminé. Petite information pour finir cette semaine, hein, malgré le confinement. C'est la semaine des écrivains persécutés, empêchés et emprisonnés qui a commencé donc lundi dernier, le lundi 9 novembre, avec des interventions dans des collèges et lycées. Ça continue toute la semaine. Dimanche donc, dimanche 15 novembre, le 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains en prison. Eh bien, à 17h, sur le net, en allant sur l'adresse kiosque.sqy.fr, vous pouvez retrouver une table ronde avec trois invités. Mamadou Ba, qui est journaliste guinéen, James Fleurissin, qui est poète et comédien haïtien, et enfin Chérif Bakala, qui est musicien, rappeur, chanteur, également comédien congolais, du Congo Brazza. Ils seront donc avec moi pour parler de liberté d'expression et pour donner également les raisons pour lesquelles ils ont dû malheureusement fuir leur pays. Donc rendez-vous dimanche 15 novembre à 17h sur les réseaux sociaux. Vous passez par le site internet kiosque kiosq.sqy.fr. Voilà, ce sera l'occasion d'échanger, même puisque vous pourrez participer à ce Facebook Live en laissant vos petits commentaires et en posant vos questions à nos invités. Donc rendez-vous dimanche à 17h en direct. Et puis, pour terminer, voilà, puisque nous sommes le 11 novembre aujourd'hui, une date importante dans l'histoire de France, et puis plus largement, hein, puisque c'était quand même la fin d'une guerre mondiale. Voilà, donc pensez pour voilà, tous les pays, tous les peuples, toutes les personnes qui souffrent et qui sont encore empêtrées dans des conflits. Ils sont encore nombreux. Et à tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour leur liberté. Voilà, une petite pensée pour eux. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h, hein, petite innovation. On sera en direct de 16h à 18h. Alors, bon, vous le savez, c'est le confinement, hein, et pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui ne connaissent pas forcément les démarches à suivre, les aides qui peuvent être apportées par des associations, par les mairies de Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, écoutez, ce sera l'occasion. Vous pourrez nous appeler au 01 30 51 7878, 01 30 51 7878, en direct, pour partager vos initiatives, pour même faire de la publicité, pourquoi pas, hein, si vous faites de la livraison à emporter, et si vous êtes à la maison et que vous souhaitez par exemple commander quelque chose, eh bien, on vous mettra en lien. Donc n'hésitez pas, on parlera de toutes les initiatives, elles sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous appeler 01 30 51 7878 à partir de 16h mercredi prochain. Voilà l'occasion également de mettre en relation des gens et des personnes qui sont isolées avec des personnes qui agissent au quotidien. Il y en a beaucoup qui agissent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour un simple témoignage. Sinon, ça aussi, nous sommes preneurs. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.